Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Quels sont les dangers des activités politiques en milieu éducatif? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Serge Bondé Diélé, secrétaire général de l'ASBEL IMAE, Young Men Action for Education. Il est aussi le coordonnateur de la campagne École Eza Mombongote. Serge Bondé dit bonjour.
Bonjour Papa Jody.
Bienvenue dans cette émission et dans la deuxième partie de ce programme, nous allons parler de l'autonomisation économique de la femme grâce au projet Pour Elle. Le projet Pour Elle. On en parle tout à l'heure à partir de 11h05 heure de Kinshasa. Pour participer à cette émission, le standard est déjà ouvert. Composez les 099 706 99 41. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Debs Vita, à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Bien, en République démocratique du Congo, les écoles et universités sont souvent transformées en lieux d'organisation des activités politiques. C'est ce qui ressort d'un rapport publié au mois d'octobre dernier par l'ASBEL IMAE. Cette organisation révèle que les élèves et le personnel enseignant ont été utilisés à des fins de propagande politique lors des élections de décembre 2023. Près de 40 cas d'activités politiques dans les écoles ont été répertoriés dans ce rapport. Pour cet ASBEL, ces cas constituent des atteintes graves au développement harmonieux de nos enfants. Quels sont les dangers des activités politiques en milieu éducatif? Serge Bondé Diélé est le secrétaire général de l'ONG IMAE, Young Men Action for Education, et il est également le coordonateur de la campagne École Eza Mombongote. Voilà. Serge Bondé Diélé, ravi de vous retrouver encore aujourd'hui dans cette émission. Alors, qu'est-ce qui vous avait motivé à organiser une enquête sur les activités politiques en milieu éducatif?
Oui, merci. Je suis aussi très content de vous retrouver, Papa Jeudi. Je crois que la dernière fois, c'était avec le cas des incidents à Goma.
Tout à fait.
Et nos auditeurs, il y a très longtemps, vous savez quand on passe plus sur les ondes de la radio Capi, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe?
Bien sûr.
On est là. En fait, effectivement, vous savez, le moment de la tenue des élections, surtout dans notre pays, voire même dans d'autres pays aussi, en Afrique subsaharienne et pourquoi pas dans d'autres continents, on a vu aussi en Amérique latine et consorts, ce sont en fait des moments très émouvants et qui sont pleins de tensions, avec des activités, des rassemblements, des communications suffisamment mouvementées, et lequel moment appelle toujours une observation, une surveillance soutenue, tant de la part de pouvoirs publics par des instances de régulation, autant pour la société à travers les organisations de la société civile, la presse que vous êtes. Et vous savez, les activités de la campagne électorale qui permettent aux parties prenantes au processus électoral de s'affronter en termes de diverses activités de propagande, tout cela à la recherche de l'adhésion des électeurs à leur programme, pour obtenir suffisamment de voix au suffrage valablement exprimé, c'est à la fois un moment propice au déchaînement des passions. Et ce moment qui est caractérisé par ce déchaînement des passions appelle aussi à mesurer les niveaux d'ancrage du respect d'un certain nombre de droits. Et ici, nous faisons comme nous avons la mission de promouvoir le droit à l'éducation. Mmh. Il était important pour nous d'observer donc un certain nombre de droits. Vous avez le droit de l'enfant, vous avez le droit à l'éducation et des entraves en matière de l'enseignement. Et c'était aussi une occasion pour nous de veiller, d'observer un certain nombre de principes qui guident la campagne électorale en RDC. Vous avez là trois principes essentiel, le principe de l'égalité des candidats, le principe de la neutralité de l'administration publique et le principe de l'égalité, l'autorité de procéder des campagnes. Mais aussi, puisque c'est aussi un travail d'étude, un rapport d'étude, il est aussi important pour nous de voir comment est-ce que l'homme congolais qui est le fruit du système éducatif congolais se comporte pendant ces moments de déchaînement. Mmh. En termes de certains éléments véhiculés par le système éducatif, notamment l'unité nationale, le valeur culturelle, l'éducation à la paix, est-ce que le système a rempli correctement ces fonctions-là à l'égard des citoyens qui sont sortis de ces systèmes? Et c'est l'ensemble de tout ça, c'est référent aux différentes campagnes électorales 2006, 2011, 2018. C'est ça qui nous a motivés pour la campagne des dernières élections de 2023, de faire donc cette mission d'observation, mission de monitoring, qui était aussi à la fois une mission d'étude.
Et vous avez déployé vos éléments dans à peu près combien de provinces sur les 26,
D'abord sur les 26 provinces, tous nos secrétaires provinciaux, disons, ils sont actifs, nous sommes actifs dans 23 provinces, mais tous avaient réussi la mission de se déployer pour et certains territoires qui ont accueilli des candidats. D'abord, dans la méthodologie, on a ciblé, puisque c'était presque des élections généralisées, nous sommes limités à l'élection présidentielle et à l'élection législative nationale. Ce sont ces deux élections qu'on a observées. Mais le feedback, c'est-à-dire les éléments qui étaient remontés, on devrait les analyser, les étudier, voir si effectivement c'était de faits réels après avoir procédé à toute la vérification possible. Et à l'issue du rapport, on a donc documenté 16 provinces où il y a eu effectivement ces différents cas que le rapport a étayé.
Alors, en réalité, qu'est-ce que vous avez constaté sur les terrains? Si les hommes politiques allaient battre campagne dans les écoles, comment ça se passait?
Ce que nous avons constaté, en termes de violation des droits de l'enfant, vous avez 14 cas où on a documenté des faits de l'utilisation, l'exploitation et manipulation des enfants. Et là, à tous les niveaux, vous avez par exemple dans la province du Maniema, où le candidat, c'est le rapport qui est actuellement chef de l'État, était accueilli dans la masse par les enfants aussi en uniforme. Vous avez l'autre candidat président de la République, Moïse Katumbi Chapwe, qui était dans le Kwango, qui a fait son éruption dans une école et habillé en son t-shirt de campagne électorale. Et dans une école. Et ils ont fait le film dans une école. Vous avez des candidats députés, un candidat dans la ville de Kananga qui a pris les enfants, les filles d'ailleurs, d'une école et les a amenés dans son flat hôtel pour se faire des photos. Et les enfants se sont même permis de se baigner dans la piscine. C'était pour des motifs électoraux.
C'est pas vrai.
Je vous dis.
Et les responsables de l'école ont autorisé ce genre de choses.
Voilà pourquoi nous avons dit à travers le rapport qu'effectivement les élèves ont été utilisés à des fins de propagande. Vous avez des journées où on a carrément arrêté les apprentissages pour demander aux enfants et aux enseignants d'aller accueillir soit un candidat président de la République ou un candidat député national. Et vous avez donc les cas des atteintes à l'enseignement, notamment lorsqu'on détourne les apprenants de leur but.
Alors, quand on envoie ces enfants, c'est parce que cette école-là appartient à cet homme politique-là ou pas?
Bon, il y a plusieurs cas de figure. D'abord, lorsqu'il s'agit d'un candidat qui est mieux positionné, dans le cas de Songo Lolo, où on a pris les enseignants de toute la sous-division de Songololo 1 pour aller s'entretenir avec un candidat député national. Et ce candidat, il était malheureusement ou heureusement, on ne sait pas.
Il n'a pas été voté.
Il a été voté, mais il occupait une fonction de responsabilité élevée. C'était le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État. Et vous voyez, c'est cette posture-là, qui c'est parmi même des facteurs, des responsables qui se voient le membre d'un candidat qui occupe une fonction importante au pays, ne pouvait pas se permettre de refuser par peur de représailles. Et là, c'était les enseignants de toute cette juridiction qui devraient s'entretenir.
Donc ces jours-là, ils n'ont pas enseigné.
Ils n'ont pas enseigné.
Les enfants sont restés dans
Sans être occupé, parce que les enseignants devraient rencontrer le candidat qui s'est présenté. Nous avons.
Un instant, on va accueillir Jérôme depuis Lubumbashi. Bonjour Jérôme. Jérôme, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi.
Merci.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet du jour? Merci de réduire le volume de votre radio.
Merci pour la parole. Et j'ai dit ceci, j'ai bien suivi notre invité. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Si notre État ou le gouvernement ne veille pas à ce point-là, ça sera catastrophique. Parce que là où on éduque, on voit le futur, la jeunesse du demain. Mais si on permet à, par exemple, aux gens d'aller faire des activités politiques dans ces lieux-là ou dans cet endroit, c'est très dangereux. C'est pourquoi vous voyez les jeunes gens d'aujourd'hui, ils n'ont pas du respect envers les grands. Ils nous apprennent des choses qui détruit même leur vie, eux-mêmes d'abord. C'est ça d'abord les conséquences. Les milieux, par exemple, l'église, l'école, il ne faut pas permettre d'aller faire la politique là-bas où le mouvement de campagne et tout concerne. Non. Nous devons vraiment faire tout pour faire comprendre aux gens. Même à partir de cette émission, peut-être, Dieu voulant, ils comprendront. Merci pour la parole.
Bien, merci, Monsieur Jérôme, depuis Lubumbashi. Serge Bondedi.
Oui, il a dit quelque chose de très important lorsqu'il dit que là où on est dit que c'est un endroit où on vise le futur. Voilà pourquoi l'éducation ou les milieux éducatifs sont des milieux homogènes qui regroupent toutes les tendances. Vous avez même les politiques, et là vous avez les politiques du pouvoir comme de l'opposition. Vous avez des apprentis. Voilà pourquoi c'est un milieu qui doit être apolitique, et c'est ça même dans en des termes de la loi, et les rapports donnent suffisamment d'éléments sur ça. Donc pour revenir en termes de condenser, vous avez j'ai parlé des cas d'usurpation ou défaut des qualités, c'est-à-dire une mixtion dans les affaires publiques au nombre de 6. Et là, ce que nous avons documenté, vous avez les ASBL et les organisations syndicales qui ont donné des consignes de vote. Le rapport a documenté le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, qui a donné des consignes de vote. Alors que les organisations syndicales sont apolitiques. Vous avez les écoles privées agréées par l'association qui est dirigée par le président Massamba et mon ami Serge, qui pas de manière officielle,
la
SONEPA, mais de membres, certains membres de la SONEPA, qui ont usé de l'effigie de la SONEPA, qui sont promoteurs, et qui ont affiché les calicots de leurs messages de campagne dans les écoles, et qui ont même lancé de messages, de consignes de vote à l'égard des parents, des élèves, et qui ont même organisé des réunions de propagande dans les écoles. Nous avons également documenté, ça c'est au nombre de 13, des cas de politisation des établissements d'enseignement, de l'enseignement national, au nombre de 13, où vous avez soit ces écoles ont accueilli des réunions politiques, soit les candidats ont servi, se sont servis de ces établissements. Et là, je vous cite une école à Chicapa qui a vu même sa toiture s'effondre.
Pourquoi?
Parce que il fallait, c'est là qu'il fallait accueillir un candidat président de la République. Bon, heureusement qu'on a arrangé après. Ici à Kinshasa, on a eu un cas à Makala avec le candidat, le gouverneur sortant. Ses équipes étaient sur place et les bancs étaient cassés. Également au niveau de Camp Luka ici à Kinshasa. Et nous avons aussi documenté des cas d'utilisation donc de détournement du personnel enseignant à des fins privées ou politiques. Et là, vous avez donc un directeur provincial qui demande donc aux enseignants d'aller préparer, accueillir ou d'aller battre campagne en faveur d'un candidat. Et les rapports a aussi établi donc le facteur. Vous avez le premier facteur, ce facteur on les a identifiés sur base des entretiens qu'on a réalisés avec des responsables provinciaux là où nous avons effectivement documenté ces différents faits. D'abord, le premier élément, pourquoi on fait autant recours, c'est presque un recours généralisé et systématisé, voire même sans gêne, du secteur de l'éducation, aujourd'hui beaucoup plus du sous-secteur de l'EPST, comme outil de propagande politique ou des bases arrières comme base d'assises électoralistes. C'est parce que le pouvoir considère que le secteur de l'éducation et particulièrement de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique est un outil de propagande et d'assise du pouvoir. Et ça ne commence pas aujourd'hui, mais bien que à l'époque du maréchal Mobutu avec la zaïrénisation, mais ça n'avait pas cette ampleur qui est là aujourd'hui. Mais il a eu beaucoup plus cette ampleur avec le pouvoir du régime passé, et le régime actuel l'a davantage amplifié. Vous avez aussi un autre facteur, c'est l'absence d'un cadre légal ou réglementaire sectoriel ou sous-sectoriel. À l'issue, nous avons effectivement retrouvé la réglementation qui interdit même aux enseignants de parler politique dans les auditoires. Ça, c'est une bonne chose en termes du cadre réglementaire, cadre légal, mais dans la pratique, c'est encore questionnable. Mais si à l'issue, il y a au moins ce cadre légal, mais au niveau des autres sous-secteurs, l'EPST, Éducation nationale, Formation professionnelle, Affaires sociales, il n'y a pas ce cadre légal-là qui interdit effectivement aux gens de faire la politique dans les établissements. Un autre facteur que l'étude a découvert, c'est l'influence hiérarchique politique et du positionnement des personnes demanderesses. Je vous ai parlé ici du cas de Songololo, c'était un directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. Quel est ce directeur provincial qui peut refuser? Quel est ce ministre qui peut refuser?
Alors que de peur d'être sanctionné.
De peur d'être sanctionné ou se voir être exclu du système au moment de mise en place. Donc c'est parmi les facteurs. Et notre facteur, c'est au fait qui conduit au facteur précédent, c'est par peur de représailles politiques ou de règlement des comptes. Vous avez les risques de perdre sa position politique. Vous avez ceux qui maintenant reçoivent ces demandes. C'est une occasion pour profiter des faveurs et autres avantages qu'un ministre du gouvernement qui demande de réunir les gens dans une école. Il y a aussi l'ignorance du caractère apolitique de l'éducation. Ici, on a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de débats, des gens qui pensaient, non, par exemple du secteur privé, non, qu'un promoteur qui se disait, non, c'est mon école, je peux recevoir les gens comme je veux. Et non, et à l'issue des études, les rapports a fait montre, effectivement, sur base de la réglementation et des dispositions légales qu'il y a en République démocratique du Congo, l'enseignement national fait partie des services publics. Et ça, c'est la loi cadre qui le dit. Et lorsque vous analysez la loi qui régit les services publics en République démocratique du Congo, cette loi est claire. Les services publics est apolitique. Il y a même la Constitution qui dit que l'administration publique est apolitique, nette et impartiale. Donc, et au niveau de la loi, c'est l'article 131 de la loi cadre qui dispose que l'enseignement national est un service public assuré dans des établissements publics et privés agréés. Donc, un promoteur n'a pas le droit d'organiser ou de transformer l'établissement privé agréé soit-il à un siège ou un endroit,
un lieu de meeting,
des rencontres, des rencontres politiques,
des propagandes. Et surtout impliquer les élèves, les enfants.
Ce qui est encore plus dommage, impliquer les élèves et les enfants et impliquer les personnels enseignants. Et là, dans les établissements publics surtout, il y a aussi par peur des représailles que les enseignants ne savaient pas quoi faire. Lorsqu'on mobilise les enseignants, il faut aller accueillir tel candidat. Il faut on a vu à Luisa, on a documenté, il y a même de fait des donations où les gens amènent des dons, du matériel, et il est important, et ça nous avons apprécié en termes d'analyse comparée, la réaction du ministère de la Santé. On a vu à Kisangani où le ministère de la Santé avait refusé que le candidat président de la République Katumbi puisse offrir les dons d'ambulance, même dans le Nord Kivu, au niveau des sites de déplacés, c'était tout à fait correct, bien que sur le plan humain, on peut en redouter. Mais
la motivation, elle était politique.
Et là, le ministère de la Santé et des Affaires humanitaires ont fait montre d'un esprit républicain et loyaliste pour refuser ces donations. Mais dans le niveau de l'enseignement, on a vu à Luisa où des candidats députés ont fait des dons dans les écoles.
Quel genre de dons? Des cahiers? Les objets classiques?
Vous avez des objets classiques et de l'argent en espèces. Et là, il faut vraiment que le ministère puisse prendre des actes réglementaires qui doivent empêcher ces choses dans l'avenir.
Bien, on va accueillir bienvenue Kinkala depuis Kikwit. Quels sont les dangers des activités politiques en milieu éducatif? Bienvenue Kinkala, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tout le monde.
On vous écoute.
Oui, j'ai suivi monsieur Serge en train de placer les décors, mais en réalité, qu'est-ce qui fait que les activités politiques s'organisent dans les milieux universitaires ou scolaires? Nous voyons les acteurs politiques en train de faire les dons dans les institutions. Comme on dit, la main qui donne, c'est la main qui dirige. Sur le plan législatif, sur le plan légal, on peut se dire les établissements publics ne sont apolitiques. Peut-être moi, je crois qu'il faudrait prendre une loi qui interdit les donations des personnalités politiques dans les établissements à caractère scolaire. Comme ça, on peut endiguer ce système-là. Aujourd'hui, nous voyons dans les institutions supérieures ou universités, on nomme les gens par rapport aux obédiences politiques. Comment voulez-vous quelqu'un qu'on a nommé parce qu'il est venu d'un parti politique, demain il peut interdire qu'il y ait des activités politiques de son obédience dans ces institutions-là? Les tout devait commencer par là. Je crois par rapport à la loi cadre, même les animateurs des universités doivent être votés. Mais quand on continue avec le système de nomination, ces gens-là sautent à la coupe de ceux qui leur donnent le pouvoir. C'est tout le problème.
Bien, merci. Monsieur Serge Bondetti.
Oui, notre compatriote a dit des choses qui sont vraies, qui en fait entrent dans le grand lot de la politisation de la administration. C'est fort dommage. Effectivement, on ne peut pas parler des activités politiques dans le milieu éducatif sans pour autant faire allusion à la politisation de l'administration éducative ou scolaire ou académique dans son ensemble. Et malheureusement, c'est ce qui s'observe dans notre pays. Cette action de tout politiser a tout détruit et a des incidences sur la qualité de l'enseignement. On a politisé de la base au sommet, dès l'enseignant jusqu'à des postes de prise des décisions. C'est-à-dire que, et comment cette politisation se caractérise? Vous avez même la création des bureaux gestionnaires qui sont actuellement politisés. Vous avez des ministres qui sont à tout moment malmené par le député. On n'en disconvient pas que ce sont les élus du peuple. Ils ont droit au regard sur ce qui se passe. Ils ont le pouvoir constitutionnel de décontrôler. Mais très souvent, vous avez un député qui a dans sa gibecière 120 écoles à mécaniser. Et parfois, ce sont des écoles qui sont sur papier et qui n'ont pas l'existence réelle, physique. Et si quelques-unes en a, ce sont des écoles sans respecter les conditions de viabilité ni de fonctionnement. Et mais puisqu'il est député, vous êtes obligé de prendre l'arrêté pour agréer ces écoles-là. Et quand il crée ces écoles, il vous oblige d'avoir un bureau gestionnaire, un sous-provède. Et il impose
les députés imposent au ministre des sous-prophètes. Et des, vous avez des prophètes qu'un ministre ne peut pas toucher dans ces pays. Parce qu'il est imposé par un homme politique. Les enseignants qui sont en fait pour la plupart des cas membres de partis politiques, effectivement, comme notre compatriote a dit, lorsque vous avez affaire à un prophète, à un sous-prophète, à un IPP, à un directeur chef de service imposé ipso facto par un politique, mais à ce moment-là, ce sont des critères de subjectivité qui ont pris du dessus sur l'objectivité et compétence et conséquence. On a tous ces qu'on peut décrire. Vous avez, entre autres, la corruption et le népotisme. Vous avez le manque de confiance que la population a même à l'égard des institutions. Je peux vous citer un cas pour lequel Imaé est engagé maintenant dans la province de Tchouapa. Vous savez que j'étais allé visiter les Pygmées. Mais le Pygmées qui ont droit de bénéficier de tous les avantages du droit scolaire de leurs enfants, mais parce que vous avez des responsables provinciaux qui sont imposés par un ministre du gouvernement, mais ils s'en foutent d'accorder aux Pygmées leurs avantages reconnus légalement. Vous avez l'instabilité administrative. Chaque année ou par année, vous avez de mise en place intempestive. Parce qu'un député ne serait pas content d'un de ses membres.
Allez, il fait tout pour le faire partir.
Il faut le faire partir, il faut faire pression. Vous avez aussi peut-être un ministre qui se dit, bon, tous ceux qui sont là ne sont pas miens.
Ils ne sont pas de mon obédience.
Ils ne sont pas soumis. Je dois restructurer l'instabilité de l'administration. Vous avez les difficultés de mise en œuvre des politiques publiques. Lorsque à tout moment, il faut changer les gens. Lorsqu'à tout moment, il faut procéder à des mises en place, mais comment il y aura la continuité fidèle de l'action gouvernementale? Vous avez les exclusions sociales, parce que les gens ont atterri dans un poste de suite du clientélisme, ils ouvrent leurs portes qu'à leurs clients ou à leurs, comment on appelle, militants. Mais ceux qui viennent pour des choses correctes et sérieuses pour le pays, ils trouvent toujours des portes fermées. À ce moment-là, l'administration publique qui doit être apolitique, neutre et impartiale, deviennent partiales parce que les gens se considèrent comme étant, et comme étant, comme dit mon vieux Jean-Marie Tantoumé, tant on a pas qu'on lit, donc on va tout suivre à quoi il y a. Voilà toutes ces conséquences.
Quels sont les dangers des activités politiques en milieu scolaire?
Les dangers sont énormes. D'abord, vous avez le premier des dangers qui nous intéresse, c'est la réduction de ça maintient le chaos, ça maintient la réduction de la qualité de l'enseignement. Mais il faut visiter des coins dans ces pays. Bon, parfois lorsque nous parlons, les gens nous trouvent comme si on n'a pas
vous exagérez
qu'on exagère, mais c'est parce que nous sommes sur terrain. Mais allez visiter Idiofa, parce qu'à un certain moment, il y avait une personnalité de ces coins qui avait imposé que les gens soient mécanisés. Allez visiter certaines provinces, allez visiter chez nous à Bouindé. Vous avez un chef.
Vous étiez à Bouindé, Bassankoussou.
J'étais à Monkoto. On a fait ces pays. Allez dans les Grands Katanga. Vous avez parfois des chefs d'établissement qui à peine savent formuler une phrase simple.
En français.
En français, à peine. Mais c'est celui-là qui doit gérer un établissement d'enseignement. Vous avez vu ici, à un moment, ça a fait le buzz, une vidéo où un directeur provincial, à l'époque, il était du Kassai Central 1, lors du lancement de l'ENAFEP, devant les enfants, il s'est permis de dire que l'examen que nous lançons aujourd'hui, c'est un examen gratuit.
Oh là là, devant les enfants.
Devant les enfants, devant les officiels. Un directeur provincial.
L'éducation est en danger.
Mais, et dans le chaos. cause de la politisation.
La politisation. Donc, les écoles sont des milieux apolitiques.
Les écoles sont des milieux apolitiques. Ce n'est pas Imaé qui le dit, mais c'est la loi. Et c'est-à-dire, elle doit être apolitique, neutre, loin de toutes les tendances possibles. Parce que là-bas, c'est la recherche du savoir. Et lorsque le milieu éducatif est trop politisé, les acteurs comme les enfants perdent l'esprit critique. Ça, c'est la deuxième conséquence. Mmh. Alors que les systèmes nous forment pour développer l'esprit critique.
Bien, un instant, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons de danger des activités politiques en milieu éducatif. Appelez pour participer au 099-706-9941. Au Capi. Maître Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa, et Jano Louembwe à Kolwezi. Maître Omar, bonjour.
Bonjour, monsieur Jolie, bonjour à l'invité.
Bonjour. On vous écoute.
J'ai aimé la conclusion de l'invité avant mon intervention lorsqu'il a dit c'est interdit parce que la loi l'interdit. Et puisque je suis juriste, je voudrais ici rappeler à tous ces politiques véreux, ces immoraux qui font de telles pratiques à l'école, qu'il existe bel et bien des lois qui interdisent cela. Vous avez la loi de 2014 sur l'enseignement qui précise qu'aucune activité autre que celle liée à l'éducation ne peut être organisée dans une école. Et on a même énuméré, je parle aux auditeurs des détails des articles. On a la loi du 15 mars 2004 sur les partis politiques qui précise de manière que les activités politiques ne peuvent pas être rendu public dans les églises, dans les écoles et dans d'autres milieux éducatifs. Les lois existent. Et par rapport aux enfants, il y a une loi spéciale, l'invité le sait, la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Prenez l'article 6 de cette loi. Elle précise que toutes les autorités politiques, scolaires, même le parent, doivent prendre des mesures si et seulement si elles sont dans le cadre de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est une obligation. Même lorsque nous défendons les enfants, on est interdit d'avoir des touches. Même la paix de l'enfant est sécurisée. Toute décision même que le juge prend doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. En quoi est-ce qu'une activité politique peut être importante pour l'enfant? Et de plus loin, les articles 56 et 57 interdisent cela de manière formelle. Ils disent on ne peut aucunement exploiter un enfant pour des buts dans un milieu scolaire, pour des buts économiques ou pour des buts politiques.
Oui, Maître Omar. Allô?
Et la loi érige cela en infraction. Devait être poursuivi. Pour finir, monsieur, je dis, puisque le temps fait défaut. Moi, je pense que la première des choses, c'est vulgaire. Deuxième chose, il faut porter plainte ou dénoncer comme le fait Limaillé. Moi, récemment, j'ai vu un.
Allô, Maître, il y a des.
Allô?
Oui, allez-y, on vous écoute. Il y a quelques coupures. Allez-y.
Allô?
Oui, on vous écoute.
Allô?
Oui, on vous écoute, maître.
Allô?
Oui, apparemment, il nous entend plus. Allô, maître?
Oui, allô, monsieur Jeudi.
D'accord, c'est bon, on vous écoute maintenant. Bon, on vous écoutait déjà, allez-y.
Je soutenais, monsieur l'invité, pour dire que ces faits sont bel et bien érigés en infraction par la loi de 2014 sur l'enseignement, la loi de 2004 sur les partis politiques, et la loi sur l'enfant de 2009, article 6, 56 et 57. Tout acteur politique qui s'évertit sans foi ni loi à faire sa propagande politique dans une école commet une infraction et on doit l'arrêter. Je disais, pour rendre efficace la démarche des Imaïe, il faut vulgariser ces lois parce que beaucoup de politiques ne lisent pas les lois. Des deux, il faut dénoncer comme l'a fait l'Imaïe. Quand on dénonce pas un mal, c'est qu'on l'adore. De trois, il faut réhabiliter un service qui existe, article 77 de la loi sur l'enfant. La brigade spéciale de protection de l'enfant. Cette brigade a pour mission de veiller à ce que tout fait qui porte atteinte à l'honneur de l'enfant soit sanctionné. Mais cette brigade n'existe presque pas. La loi oblige au ministre de l'Intérieur de prendre des arrêtés pour la faire fonctionner. Elle doit remarquer de telles choses, les constater, et ceux qui ont des cas à dénoncer doivent se rendre près de cette brigade. Malheureusement, elle n'existe pas. Et enfin, il faut sanctionner. Monsieur Imaïe a cité des noms de manière précise. Mais quelle a été la suite? Est-ce qu'on les a dénoncés? Est-ce que le ministère public s'est chargé? Parce que tout fait à la contre de l'enfant est une infraction et la loi protège l'enfant car il est un être vulnérable. Les dangers sont énormes. Toute activité en dehors de l'éducation de l'enfant est une activité qui torpille son intégrité morale et physique. Donc, j'encourage M. Limaillé, vous avez les outils juridiques, ce qu'il faut faire au-delà de la plainte, saisir les juges ou les parquets pour que ces personnes de moralité douteuse soient poursuivies. Merci beaucoup, monsieur Jolie, et je vous remercie.
Bien, merci. On va accueillir à présent monsieur Jano Louembwe depuis Kolwezi et Alisano. Coucou à tous les auditeurs de Dilala, de Manika, qui nous écoutent en ce moment. Jano Louembwe, bonjour.
Bonjour, monsieur Jourdain. Merci de me joindre à ce débat. J'aimerais aller dans la même suite que maître qui venait de parler.
Oui.
Puisqu'il y a des lois qui interdisent ce genre d'activité dans des milieux éducationnels, il faudrait donner maintenant valeur à ces lois-là pour que le Congolais qui abuse ou qui piétine de ces lois arrête de faire cela. Vous savez que nous vivons dans un pays où le trafic d'influence est devenu une autre nature, une seconde nature pour nous. Je m'imagine l'exemple de quelqu'un qui, étant politique bien sûr, a des écoles et qui voudrait descendre dans ces écoles qui lui sont privées bien sûr, avec comme argument, je sais pas, je vais vous exempter ou demander aux parents de ne pas payer un tel frais. Ouais, il y a aussi la pauvreté qui entre en jeu, il pose des influences et consorts. Je pense que le milieu éducationnel comme les écoles, les universités ne devraient pas avoir ou subir ce genre de pratiques. Donc ce sont les lois dont a fait mention maître qui doivent être mises en valeur et que les sanctions puissent aussi s'en suivre. Nous vivons dans un pays où pour sanctionner des politiques, c'est difficile parce qu'ils sont les tout puissants ici au pays. Alors il faudrait qu'on mette un accent sur les lois qui existent interdisant ces genres de pratiques dans des écoles qui sont censées être de milieux éducationnels. On y va pour apprendre, être informé. Et quand on y amène la politique, ça devient de naturalisation des choses. Les enfants, ils sont victimes dans ce genre d'action. Et aussi, ça porte la discrimination. Je prends l'exemple de quelqu'un, d'un élève dont l'oncle est député. Oui, ça sera quelqu'un qui va commencer à
mettre et ce qui est grave, qui vient... vous savez ce qui est grave, Jeannot, un candidat qui se permet d'amener les enfants d'autrui ailleurs pour, et les enfants vont nager, on prend les images, et si les parents...
D'un enfant ou d'une enfant dont l'oncle est député et candidat et qui doit venir dans une école. La personne va commencer à embêter ses camarades écoliers ou écolières. Non, c'est mon oncle qui vient, il est député. Vous, dans votre famille, il n'y a ni député, il n'y a ni ministre, vous êtes des pauvres. La discrimination. Ça encourage aussi le tribalisme. Parce que vous allez voir que, bon, le directeur pourra dire, non, vous voyez, c'est lui qui vient, il est notre frère, cher enseignant, soutenons-le donc. Ces activités doivent prendre fin et ces lois qui interdisent cela doivent être prises en valeur. Pour que ce genre d'activité, ce genre de pratique puisse prendre fin et que nos enfants, nos élèves étudient, continuent à apprendre dans la quiétude, dans la tranquillité, loin des populismes et tout ce que nous connaissons là.
Bien, merci. Merci, Jeannot. Monsieur Serge Bondedi.
Oui, les contributions de Maître Omar ont été tellement enrichissantes que je ne vois pas quoi dire encore là-dessus. C'est vraiment importante et c'est ça en fait le voilà pourquoi lors de la publication des rapports on a invité même le ministère de l'Intérieur. Bon, malheureusement on les avait pas vus.
C'est effectivement parce c'était que lors d'un point de presse organisé
c'était un atelier au quartier général de la MONUSCO.
C'était quand les 3 octobre.
C'était le 3 octobre et vous savez ce qui me ça me rappelle une anecdote. Quelqu'un des institutions publiques qui nous dit non, vous voulez nous amener dans les installations des Nations Unies
pour nous accuser.
Pour nous accuser. Dans la conception du pouvoir, il y a encore un problème dans notre pays.
Ce sont des atteintes graves aux droits de
l'enfant. Ce sont des atteintes. Je vous cite, par exemple, le 12 décembre 2023, parce qu'on a tout documenté. Le gouverneur sortant du Congo central, qui a réuni les enfants de Tetembwa, les enfants de Vuvuketo et des autres écoles, lui qui était candidat, mais il a réuni les élèves finalistes. Parce qu'il savait
pour quelle fin?
Était candidat député national et provincial. Et les autorités de l'Institut Tetembwa, c'est son vie. Qui va refuser? Que le gouverneur veut s'entretenir avec les enfants.
Pour leur dire
finalistes.
Quoi?
Mais il était candidat.
Leur demander d'aller les voter.
Exactement. Exactement. On a eu des cas ici. Je vous ai parlé de Louisa. Il y a beaucoup de cas vraiment qui. J'ai cité le gouverneur sortant. J'ai parlé de Makala plutôt. C'est Ngiringiri qui avait réuni les enfants à l'école primaire 8 et 3 de Ngiringiri. Autant de faits. Et à la suite de cette rencontre, lui, il a réuni les enseignants et tellement qu'il y avait du monde. C'est le gouverneur qui demande à ce que. Et chaque gouverneur comme ça, par exemple, le gouverneur sortant de Kinshasa, avait aussi son directeur provincial.
Alors, Maître Omar vous dit, c'est bien de dénoncer, mais il faut aussi porter plainte contre
Est-ce que Imaé compte aussi le faire ou vous vous arrêtez tout simplement à dénoncer?
On peut mieux le faire parce que nous sommes dotés de la personnalité juridique. Mais vous savez, c'est ça même, c'est l'une des raisons qui a fait que nous puissions publier les rapports tardivement, parce que on a fait notre mission le mois de décembre, janvier, tout était prêt. Mais ce sont les appréhensions. Nous sommes dans une société où l'esprit critique est tellement détruit et on vous colle de préjugés. Déjà, vous avez dans certains ministères, vous avez certains hauts cadres, même au niveau de l'enseignement national, qui vous dit non, vous êtes une ONG de l'opposition.
Tout parce que vous avez fait, vous avez enquêté sur
parce
ça.
Parce que vous avez enquêté sur des faits. Parce
mais
que
les faits sont réels.
Sont réels parce que vous dénoncez des choses. Alors, c'est ça qui avait fait, en fait, que nous puissions même publier tardivement les rapports. Parce que vous avez, par exemple, on a documenté des cas. Je vais retrouver. Vous avez des cas qu'on a documentés dans les Lomami, dans une école primaire où vous avez les envoyés d'un haut représentant du chef de l'État qui ont fait on a même des vidéos. Ils savaient pas qu'on les suivait tous. Qui ont fait chanter les enfants.
Quelle chanson?
En faveur de leur candidat. Il est dans les cabinets.
Je pense qu'il y a eu des vidéos comme ça qui ont circulé. Oui. On voyait les enfants chanter.
Oui, on à a fait circuler parce que pour ne pas dire que c'était des montages.
Oui.
On a vu les équipes des candidats Samalou Kondé, actuel président du Sénat, qui ont fait incursion dans près de 3 écoles dans sa circonscription électorale. On a des vidéos, on a des images et c'est documenté même dans les rapports.
Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Ismaël Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi, John Benani à Gemena et Maître Christophe à Kolwezi. Ismaël, bonjour, quelle est votre question?
Oh, bonjour Jody, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je pense que je vais vous donner quelques témoignages et plus une question ou deux questions seulement. En 2009, j'ai descendu, je faisais mon commerce sur les trains. Je suis descendu au Kassa Central. Je me suis arrêté à Chimbulu. Il y a la sous-division là. À votre grande surprise, tenez ce que ces gens-là disaient de cette sous-division-là. Les sous-prophètes étaient du PPRD. Ces gens-là disaient quoi? C'est ça notre poste du PPRD. Quand aujourd'hui vous vous étonnez de dire est-ce que les élèves, les consoles peuvent faire la politique, ce sont des actions du temps. Vous ne pouvez pas regretter pour cela. Il a fallu à ce qu'il y ait un peu de réforme en vue que ceux qui sont du politique ne puissent pas aussi se mêler de l'enseignement. Vous vous imaginez ce qui était passé en Côte d'Ivoire avec les grands écrivains qui s'est fait politicien. Mais peu après, il a dit, moi je retourne un peu à l'écriture. C'est ça. Il a fallu qu'on fasse un peu la distinction. Vous imaginez un poste de l'enseignement qui revenait au PPRD. Vous vous attendez à quoi comme fruit de résultat? C'est ça le grand problème.
Quelle est la question?
Aujourd'hui, je n'ai pas terminé. Je vous donne aussi des témoignages. Ici à Lubumbashi où nous sommes, il y a le parti politique qu'on appelle INAFEC. Mais je dis, mais à moins qu'on soit idiot, les enfants qui sont là, ce sont les enfants de l'école primaire. Les enfants de l'humanité, ce n'est que de petits enfants. Mais par rapport même à la loi, je pose la question à l'invité. Par rapport à notre constitution, à quel âge une personne peut faire la politique? Et quelle est l'utilité de l'avenir d'un enfant qui adopte la politique de bas âge? Moi, je vous dis, moi j'ai adopté la politique de mon bas âge. Mais jamais, je ne pouvais pas m'inclure dans les activités politiques. C'est ça ce que je vais demander à l'invité. Comment on peut faire le parallélisme entre l'activité politique et l'activité scolaire? S'il s'avère qu'un enfant de moins de 18 ans est inclus dans la politique, qu'il soit élève ou non élève, que prévoit la Constitution.
Merci beaucoup.
Et si la Constitution est appliquée, mais à ceux qui s'opposent même à la modification, au changement de la Constitution, c'est comme s'ils n'ont pas le cerveau.
Merci, Ismaël, merci, on n'est pas là-bas. Revenons à notre sujet du jour. John Benani, vous êtes à Gemena, bonjour. John Benani, depuis Gemena, bonjour.
Bonjour, chef Tati. Bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, John. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux activités politiques en milieu éducatif?
Ok, merci. Il essaie de s'intéresser sur le développement de la RDC. Et j'aimerais encore remercier l'intervenant de tout à l'heure parce qu'il a fait allusion à l'éducation de quoi. Je suis à Guémena dans une mission. Je me dis je dois intervenir parce qu'on a fait allusion à la communauté où je suis ressortissant. J'aimerais informer à la communauté nationale que depuis 2022, la République démocratique du Congo s'est dotée d'un instrument, la loi numéro 22-030 du 15 juillet 2022, portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Cette loi donne la gratuité aux enfants des communautés autochtones pygmées dans toute la RDC, de l'école primaire jusqu'à l'école à l'obtention des diplôme d'État. Cette loi souffre aujourd'hui d'égalisation. C'est pourquoi aujourd'hui les enfants font pygmées à l'éducation. Surtout que les politiciens sont en train maintenant de créer des écoles en leur faveur, des écoles privées. Ils privent aussi les enfants pygmées pour accéder à l'éducation. Donc voilà les sujet de tout à l'heure.
Désolé.
M'a beaucoup intéressé.
Oui.
Et je voudrais vraiment donner des fleurs, jeter des fleurs à l'intervenant de tout à l'heure qui a fait allusion aussi de faire passer le message.
Qui a fait allusion aux enfants, les autochtones, les pygmées.
La République démocratique du Congo a un instrument. Oui. A un instrument qui donne la gratuité à l'éducation à tous les niveaux dans l'école publique de l'État. Je trouve ici à Guémena, les pygmées ne sont pas présents dans toute la vie de Guémena. Ils sont dans des territoires. Comment ils vont accéder au moment où les autorités étatiques, les autorités de l'école, les écoles sont en train de leur demander des frais? Donc voilà le sujet qui m'a beaucoup intéressé, M. Jody.
Bien, merci John Benani depuis Guémena. Merci Maître Christophe, vous êtes à Kolwezi, bonjour.
Bien. Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs.
Maître Christophe, qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à l'exercice des activités politiques en milieu éducatif?
Oui, c'est simple, M. Jody, la thématique est claire. Les milieux éducatifs, ce sont des milieux apolitiques. Si on se rend compte qu'il y a des activités politiques qui s'y exercent, la conséquence ou les dangers, c'est la destruction, la détérioration, n'est-ce pas, de l'éducation. La formation ne sera pas au top. Et c'est ce que nous vivons partout à travers le pays, parce que même ici à Kolwezi ou Lualaba, nous vivons ce genre de pratiques qui, malheureusement, nous déplorons, mais ça continue. Qu'est-ce qui est à la base de ce genre de comportement? Vous trouvez un politicien venir faire des activités politiques dans des écoles, dans des organisations, parce que la nomination aujourd'hui ou les différentes nominations sont fonction des acteurs, le critère de délibération ou les critères pour qu'on soit nommé et appartenir à un parti politique. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des gestionnaires des écoles, la plupart des acteurs de l'éducation sont issus des partis politiques. Ils sont parfois candidats, ils sont amis, frères ou membres des partis politiques, des politiciens. C'est ce qui fait que, bon, c'est compliqué. Alors que ce sont des antivaleurs que nous devons bannir. Ce sont des pratiques qui n'avancent pas, en fait, les systèmes éducatifs. Je ne sais pas. Parce que les politiciens, même les acteurs qui viennent avec ce genre d'activités, ils sont conscients que c'est interdit. Ils savent que la loi ne les permet pas, mais quand ils viennent, parce qu'ils sont intouchables. Ils viennent parce qu'ils sont autorités. Ils viennent parce qu'ils sont influents. C'est comme ça que je termine avec la question que je vais poser à notre frère, l'invité.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces pratiques cessent?
D'accord.
Aujourd'hui, ce pays
La plupart des politiciens se comportent vraiment en violation de la loi.
Merci. Qu'est-ce qu'ils devront faire? Merci, Maître Christophe. Elvis Londola, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Et quelle est votre question rapidement?
Bonjour, Monsieur Judy. Bonjour, Sia. Oui, parce que c'est une question qui est tellement importante, parce que c'est une question, nous tous, peut-être dans ma province, moi aussi également, j'ai très soutien à ces pratiques. Parce que dans beaucoup de provinces, les écoles se font souvent passer par un objet commercial.
Bon, Elvis, il y a beaucoup de bruit là où vous êtes. On vous écoute, on vous entend pas très bien. Monsieur Serge Bondédier, vous avez suivi les différentes réactions. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Ce qui me fait rire, Kinshasa, il y a des bruits.
Il est dans les bruits
de Kinshasa. Une ville zombie, cette ville. En tout cas, c'est pour détendre aussi les auditeurs.
Bien sûr.
Je crois que nos camarades ont tout balayé, ont renforcé. Je crois que pour notre ami qui est à Guémena, sur la question des peuples autochtones, certainement on aura une autre occasion, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a pu découvrir sur des cas de stigmatisation dans le cas
des peuples autochtones
qu'on a documenté. On est encore dans l'élaboration des rapports, parce que on a fait même l'évaluation du point de vue VBG, évaluation de la situation éducationnelle et autres violences. Donc il y aura une occasion beaucoup plus propice. Effectivement, l'ami qui a dit, qui a parlé de postes qui reviennent de facto aux partis politiques, on en a vu. On a vu dans ces pays, je vous cite la province de Kwilu, où un IPP qui était itinérant a été imposé, je vous cite le parti UDPS, pour devenir inspecteur principal provincial. Ce n'est pas le seul cas, on en a documenté plusieurs.
Quand la politique se mêle de tout, donc ça devient compliqué.
Ça devient compliqué. On a vu à travers le pays.
Maintenant, il y a une question que Maître Christophe vous pose. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On a un rapport documenté avec des preuves à l'appui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
Nous, on a formulé des recommandations qu'on ne soit peut-être pas tout balayé à la communauté internationale. C'est notamment de prendre encore d'autres observations qui peuvent tenir compte de cet aspect. C'est vrai qu'il y a beaucoup de recommandations. Il y a beaucoup de... Le cadre réglementaire international est suffisamment évolué. Mais cet aspect sur les activités politiques, il faut sanctuariser davantage les écoles, comme c'est le cas avec des conflits armés, où il y a vraiment des textes beaucoup plus clairs. Ça, c'est la recommandation qu'on a faite. On a fait des recommandations au président de la République, parce que c'est lui qui est le garant du respect, des traités et accords internationaux, de prendre à bras les corps cette situation. Ce sont ces enfants. Lorsque ces enfants sont à la merci des politiques, les enfants perdent même la motivation. Lorsque les enfants comprennent que l'éducation est politisée, c'est comme quand les enfants comprennent qu'il y a 100%, le préfet va se battre avec École Mumbongo, les enfants n'étudient plus. Donc c'est aussi... On a fait les recommandations, on a formulé des recommandations aussi au Parlement pour citer expressis verbis, c'est dans la loi électorale, le bâtiment public et ceux relevant de l'administration publique ou des services publics ne pouvant pas abriter ou ne pouvant plus abriter les activités ou des réunions politiques, bien que c'est la loi elle est un peu sommaire. Mais si le législateur peut vraiment de manière expressis verbis faire cela, au gouvernement c'est de veiller davantage. Bon, nous, comme société civile, on a publié les rapports. Nous sommes en train de nous battre pour la vulgarisation de ces rapports. Maître Omar nous a conseillé de saisir les juges.
Le ministère des tutelles a été déjà saisi?
On a le conseil des ministres était présent à la publication des rapports.
D'accord.
Ils nous ont promis aussi des séances de travail, parce qu'il faut que des actes soient pris. Nous continuons à attendre, vous savez, là-bas de ce côté, ces derniers temps, tout c'est par téléconférence.
Bien, Serge Bondédier, secrétaire général de l'ONG Imaé et coordonnateur de la campagne École des Amoumbomotés. Merci.
C'est à moi de vous remercier pour votre journée.
Bien, et à la prochaine.